Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, bonjour! Vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur 99.5 FM. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de mon émission. Au programme aujourd'hui, les dates d'arrivée de la mission de paix africaine en Russie et en Ukraine sont annoncées, les citoyens de 4 pays de l'Afrique peuvent visiter la Biélorussie sans visa et Moscou envisage de fournir gratuitement 34 000 tonnes d'engrais au Nigeria. Quelles sont les attentes de l'Ouganda à un mois du sommet Russie-Afrique ? L'ambassadeur ougandais en Russie nous confiera dans quel domaine son pays souhaite renforcer la coopération avec la Russie. La France va réduire le nombre de ses militaires présents dans 3 pays africains. 2 panafricanistes burkinabés et nigériens analyseront cette décision française. Le développement d'une coopération gagnant-gagnant entre l'Afrique et la Russie peut concerner des domaines différents, voire même insoupçonnés. Une femme d'affaires camerounaise, présidente d'un club de football, accompagnée d'un joueur de son équipe, dévoileront à notre micro des pistes afin d'intensifier la coopération russo-africaine. Les présidents d'Afrique du Sud, des Comores, du Congo-Brazzaville, d'Ouganda, du Sénégal, de Zambie et d'Égypte rencontreront leurs homologues ukrainiens et russes respectivement le 16 juin à Kiev et le 17 juin à Saint-Pétersbourg. La Fondation Brazzaville, chargée des préparatifs de la mission africaine de la paix en Ukraine, l'a déclaré ce mercredi 7 juin. Les travaux sur l'initiative annoncée à la mi-mai sont déjà en cours. Le 5 juin dernier, 5 des 6 membres de la mission, ainsi que le président de l'Union africaine, se sont réunis par visioconférence afin d'aborder les détails de ce projet de résolution, selon la présidence égyptienne. Durant la rencontre, le président de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sissi, a confirmé l'espoir du Caire que l'initiative africaine contribue au règlement du conflit russo-ukrainien, compte tenu des relations étendues entre les pays du continent africain et des deux pays. Le chef de l'État égyptien a également souligné que cette crise va bien au-delà de l'Europe, avec des répercussions sur différentes régions du monde, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Visiter la Biélorussie sans visa, c'est désormais possible pour les ressortissants de 4 pays africains. Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a pris cette décision afin de faciliter le séjour sur son territoire des visiteurs du Festival international du Bazar Slave, qui se tiendra du 13 au 16 juillet prochain à Vitebsk, dans le nord-est du pays. En Afrique, les pays chanceux se nomment l'Égypte, l'Afrique du Sud, la Namibie et la Gambie. Toutefois, cette mesure d'exception de visa sera valable du 4 au 23 juillet, selon la police des frontières de la Biélorussie. Pour pouvoir entrer dans le pays et en bénéficier, il faudra présenter son passeport ainsi que des billets pour le festival. Attention, en cas de sortie du territoire, celle-ci sera considérée comme définitive et l'obtention d'un visa sera nécessaire pour à nouveau franchir la frontière. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que le président biélorusse prend des initiatives de ce genre. En 2018, il avait libéré de cette obligation les citoyens de 74 pays pour des séjours inférieurs à 30 jours. En août prochain, à l'occasion des Jeux de la Communauté des États indépendants, tous les participants et bénévoles seront dispensés de visa. Après le Kenya et le Malawi, le Nigeria recevra à son tour gratuitement des engrais de la part de la Russie. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a annoncé lors d'une conférence de presse que 34 000 tonnes de fertilisants attendaient leur tour pour être livrées au Nigeria. Madame Zakharova a profité de l'occasion pour dénoncer les propos hypocrites et fallacieux de l'Occident au sujet de la sécurité alimentaire globale et de la menace de famine. Pour elle, les Américains, Européens et Ukrainiens continuent de bloquer les livraisons russes de céréales et d'engrais en manipulant la hausse des prix et le déficit physique de ces produits clés sur les marchés mondiaux. Pour rappel, en 2022, la Russie avait proposé de remettre à titre gracieux aux pays dans le besoin les engrais russes bloqués dans les ports européens. Depuis, les déblocages se font au compte-gouttes. Le Malawi a reçu le premier lot début mars, tandis que la deuxième livraison est arrivée dans le port de Mombasa au Kenya fin mai. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Ici l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Je vous souhaite la bienvenue si vous venez tout juste de brancher votre poste de radio sur 99.5 FM. Le sommet Russie-Afrique approche à grands pas. En marge de cet événement très attendu, certains pays du continent continuent de se confier sur leurs attentes. L'Ouganda mise également sur une coopération avec la Russie dans de nombreux domaines. Au micro de Spoutnik Afrique, l'ambassadeur ougandais en Russie, Moses Kizigé, a fait le point sur les attentes de son pays à un mois du sommet. Écoutons-le. Monsieur l'ambassadeur Kizigé, vous avez participé aujourd'hui à un déjeuner d'affaires consacré aux différentes formes d'engagement commercial en Ouganda. Quelles opportunités commerciales voyez-vous pour une coopération plus approfondie avec la Russie dans des domaines tels que l'investissement et le commerce?
À l'issue de cette rencontre, je peux dire que la transformation alimentaire, le séchage et la congélation des fruits et d'autres aliments frais, comme les légumes frais, sont viables. L'industrie pharmaceutique est également viable. Mais tous les domaines sont concernés, car l'Ouganda est la première, la meilleure destination pour les investissements en Afrique à l'heure actuelle. Nous devons en tirer parti et nous devrions vraiment utiliser les bonnes relations qui existent entre l'Ouganda et la Fédération de Russie pour attirer autant d'investisseurs russes que possible en Ouganda.
Les sanctions occidentales imposées actuellement à la Russie en raison du conflit ukrainien affectent sérieusement la coopération économique. L'Ouganda participe à l'initiative de paix en Ukraine et le président Museveni devrait se rendre en Russie à la fin du mois de juin. Que pouvez-vous nous dire au sujet de sa visite et quelles sont vos attentes à l'égard de l'initiative de paix menée par l'Afrique?
Vous savez, pour nous en Ouganda et pour le président Museveni en particulier, nous résolvons les problèmes en discutant avec les personnes qui ne sont pas d'accord avec nous sur de nombreuses questions. Nous pensons donc que c'est par des négociations pacifiques que nous pourrons résoudre ce conflit. Car c'est ce qui se passe dans de nombreux domaines. L'Ouganda, en tant que pays, n'a pas voté pour ou contre les sanctions. Nous nous sommes abstenus, tout comme nous nous sommes abstenus lors de tous les autres votes, parce que nous ne sommes pas alignés sur cette question. Mais j'espère que l'initiative de l'Union africaine, avec la perspective de l'Ouganda, nous donnera des résultats. Nous voulons que cette situation prenne fin le plus tôt possible.
Et comment voyez-vous le rôle de l'Ouganda dans l'architecture mondiale multipolaire qui se dessine?
C'est très intéressant. Tous les pays des BRICS, à l'exception du Brésil, c'est-à-dire la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, sont très, très proches de l'Ouganda depuis de très nombreuses années. S'ils voient l'opportunité pour l'Ouganda de se joindre à cette initiative, je sais que mon gouvernement sera heureux de le faire. Pour passer à l'étape suivante, nous ne voulons pas être dominés par des gens qui n'ont pas la majorité en nombre, car les BRICS et leurs associés représentent plus de la moitié de la population mondiale. Nous voulons donc organiser nos propres ressources à notre manière au lieu d'être influencés par les autres.
Une dernière question, monsieur. Qu'attendez-vous du sommet Russie-Afrique, puisqu'il en a été question lors du déjeuner d'affaires?
Lors du dernier sommet Russie-Afrique, nous avons dit que nous voulions faire du commerce entre la Russie et l'Afrique. Lors de ce sommet, nous ferons le point, tout comme nous avons été dérangés par le Covid. Nous voulons voir où nous en sommes afin de construire ce que nous avons déjà réalisé. Nous voulons vraiment améliorer et renforcer les relations commerciales entre la Russie et l'Afrique. C'est l'avenir. En Afrique, nous voulons un partenariat, nous voulons créer. Nous ne voulons plus d'aide parce que nous avons toutes les ressources, nous avons les ressources minérales. Ce que nous n'avons pas, c'est la capacité de faire évoluer ce que nous avons. Si nous pouvons faire venir des investisseurs et investir, nous serons alors en mesure d'être sur un pied d'égalité avec tous les autres. Nous voulons donc nous assurer qu'au cours du sommet, nous veillerons à ce que les échanges commerciaux soient réellement renforcés et améliorés pour atteindre le niveau suivant.
C'était Moses Kizigé, ambassadeur de l'Ouganda en Russie pour Spoutnik Afrique. Au micro de notre correspondant, il est revenu sur le prochain sommet Russie-Afrique et a évoqué la place de son pays dans un monde multipolaire. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Je vous souhaite la bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. La France va réduire la voilure en Afrique. Selon un média français, Paris a pris la décision de diminuer le nombre de ses militaires présents au Sénégal, au Gabon et en Côte d'Ivoire. C'est la base d'Abidjan qui verra en premier ses effectifs se réduire. Les sites français de Libreville et de Dakar suivront le mouvement ensuite. Toutefois, les autres bases françaises situées en Afrique, notamment celle de Djibouti, dotée d'un contingent de 1500 hommes, ne sont pas concernées par cette mesure. Cette décision fait suite au discours d'Emmanuel Macron en février dernier sur sa politique africaine pour son second mandat à l'Élysée. Il n'avait communiqué aucun chiffre avant d'évoquer l'idée de bases co-gérées avec les pays partenaires. Au micro de Spoutnik Afrique, deux panafricanistes ont analysé cette décision française dans une interview croisée. Je vous présente Abdoulaye Nabaloum, membre fondateur de l'association Action pour la souveraineté des peuples, président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest, et Ibrahim Namayawa, consultant indépendant, activiste de la société civile nigérienne, membre du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable. Écoutons-les. Un média français a révélé que Paris allait réduire sa présence militaire au Sénégal, au Gabon et en Côte d'Ivoire. Monsieur Nabaloum, pourquoi selon vous le choix s'est porté sur ces trois pays ?
Quand vous regardez le Sénégal, le Gabon et la Côte d'Ivoire, ce sont des pays qui ont beaucoup d'intérêts économiques, surtout avec la France. Donc la France ne souhaiterait pas que, effectivement, ce qui s'est produit au Burkina Faso, ce qui s'est produit au Mali, arrive dans ces pays-là la concernant. Donc elle anticipe un peu pour essayer de résorber, de contenir les masses éventuelles qui vont se lever contre la France, parce que ça ne va pas tarder. Ces pays-là vont connaître également des soulèvements comme ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso et puis au Mali. Et deuxième aspect qui est le rejet même de la Françafrique par la jeunesse africaine qui a compris que la présence militaire française, au-delà du plan économique que cette armée protège les intérêts français, cette armée-là s'est révélée être un instrument de déstabilisation et la jeunesse africaine ayant compris cette situation de fait a de plus en plus tendance à utiliser ce mobile-là qui est d'un premier appui pour dénoncer la France-Afrique et trouver les mécanismes pour mettre la France hors de notre système. Donc, la réduction peut venir comme un élément pour dire que, effectivement, ce n'est pas ce que vous croyez dans les autres pays. Nous, armée française, on est là pour autre chose. Donc, ça peut calmer les ardeurs pour un instant, selon mon avis, parce que ce vent nouveau qui est en train de souffler en Afrique de l'Ouest va bientôt prendre toute l'Afrique entière. Et c'est la France-Afrique qui va prendre un coup. Comme nous l'avons toujours dit, la France qui n'essaye toujours pas de comprendre l'Afrique et qui pense toujours que l'Afrique est toujours ce précaré-là. Alors, je pense que c'est un réveil tardif.
Et vous, Monsieur Namayawa, à quoi attribuez-vous la réduction de ce dispositif français dans ces pays ?
Et depuis pratiquement le discours du président français Emmanuel Macron, le 28 février dernier, un discours dans lequel il a annoncé que la France va co-gérer ses bases militaires en Afrique avec les pays de l'Afrique. Et donc, on constate que c'est une sorte de la mise en œuvre de ces cas, de cette profession de foi, de cette annonce faite par le président français. Et du 28 février dernier à aujourd'hui, on constate le redéploiement des soldats français de certains pays d'Afrique vers d'autres pays. Au même moment où la France annonce la réduction de sa présence militaire au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Gabon, pendant ce même moment, on constate un redéploiement en force de ses effectifs militaires au Niger et au Tchad, ce qui ne peut pas laisser effectivement les citoyens de ces pays que nous sommes sans réaction, parce que nous sommes de ceux qui pensent que la présence militaire de la France dans nos pays est source d'aliénation de notre souveraineté. C'est vraiment une situation que les peuples de nos pays n'ont jamais acceptée. Et c'est ça qui explique la lutte permanente du peuple nigérien, notamment des organisations de la société civile qui mobilisent le peuple pour demander le départ immédiat et sans condition des soldats français du territoire nigérien. Et je puis vous dire en tant qu'acteur de la société civile nigérienne que ce combat-là est permanent et nous n'entendons pas baisser le bras parce qu'il y va de notre souveraineté. C'est une question de la souveraineté nationale, c'est une question de la fierté nationale. Nous savons que nous avons des vaillants soldats capables d'assurer l'intégrité territoriale du Niger, d'assurer la sécurité des Nigériens et de leurs biens. Il suffit tout simplement de les responsabiliser davantage en les équipant avec des matériels adéquats. Ils vont faire le job important de sécurisation de notre pays. Nous n'avons pas besoin de la présence militaire française chez nous au Niger, qui constitue, si vous voulez, une invasion. Ils viennent nous envahir et tandis que c'est des soldats qui sont déjà chassés du Mali pour des pratiques malsaines. Et au Niger aussi, ils ont déjà commis des crimes imprescriptibles et impardonnables pour lesquels nous ne pouvons plus cohabiter, nous ne pouvons plus continuer à cohabiter avec des soldats français.
La publication ajoute que la base française à Djibouti reste intacte avec 1500 militaires. Monsieur Nabaloum, pourquoi la France ne réduit pas sa présence militaire dans ce pays africain ?
Pour le moment, la France ne se sent pas inquiétée du côté de Djibouti parce qu'ils ont déjà mis en place des instruments et des mécanismes qui favorisent le chaos et qui, en tout cas de mon point de vue, ne permet pas à une riposte comme ce qui se passe au Mali, comme ce qui se passe au Burkina Faso. C'est depuis la Libye que le chaos a été orchestré. Fort heureusement qu'on a eu des dirigeants clairvoyants, on a eu des dirigeants patriotes, on a eu des dirigeants souverains qui veulent la souveraineté de leur peuple et qui ont décidé autrement que ça va se passer. Donc Djibouti, de mon avis, va très bientôt s'inspirer de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest parce que ce qui se passe au Burkina Faso et ce qui se passe au Mali sont des signaux forts que nous, Africains, nous avons la possibilité et nous avons les capacités surtout d'avoir des partenaires qui peuvent nous accompagner. Et il y a le bel exemple que la Russie, en acceptant d'accompagner le Mali, en acceptant d'accompagner le Burkina Faso, on a vu les résultats qu'on pouvait voir autrement, on pouvait réussir autrement. Et en tout cas, c'est l'occasion pour nous de remercier les autorités de Russie et en tout cas tous ceux-là qui, de par leur vision, qui, de par leur action, trouvent moyen de soutenir nos populations, trouvent moyen de soutenir nos États dans leur vision, dans leur engagement de libérer leurs États, dans leur engagement de conquérir la souveraineté de leur peuple.
Et vous, Monsieur Namayawa, est-ce que d'après vous, ce nouveau réaménagement va vraiment aboutir à la réduction de la présence française en Afrique ?
L'impérialisme français, dans sa forme la plus abjecte, se déploie à travers trois mécanismes d'intervention. Le premier mécanisme, il est militaire. L'autre mécanisme, il est diplomatique. Et le troisième mécanisme, il est économique à travers les multinationales françaises. Et donc, nous ne pouvons pas considérer que le remaniement, surtout voulu par le président français, donc qu'il arrange les autorités françaises, peut consacrer la réduction de la présence française. Or, nous ne pouvons pas l'imaginer ainsi. Pour nous, le développement économique de la France dépend de la présence française en Afrique. Et donc, les autorités françaises conscientes de cela ne veulent pas quitter l'Afrique. En dépit des protestations, des multiples protestations des populations africaines, en dépit de la volonté affichée des Africains de voir la France quitter les territoires, quitter définitivement les pays africains, notamment les pays du Sahel, on constate que la France s'arc-boute et continue à s'accrocher dans ces pays. Et effectivement, ce n'est pas un fait du hasard, c'est dû au fait que la France est dépendante de ces pays-là en ce qui concerne le pillage de nos ressources naturelles que la France, auxquelles la France s'adonne, en ce qui concerne effectivement le pillage de notre économie à travers la monnaie et CFA qui nous est imposé par la France et qui, il faut le dire, n'a plus de valeur juridique actuellement au niveau de l'Afrique parce que la durée est prévue pour usage de cette monnaie-là était déjà dépassée et vous allez constater que la France continue à nous exploiter en utilisant cette monnaie coloniale esclavagisante qui est devenue un moyen néocolonial pour la France de maintenir les 14 pays africains dans la dépendance, dans la servitude et dans le sous-développement. Et donc, c'est conscient de tous ces enjeux que nous continuons à nous battre afin de voir la France quitter définitivement nos pays. Le combat de l'air, c'est vraiment le combat qui consiste à demander le départ immédiat et sans condition des soldats français de notre territoire En tout cas, nous, au Niger, nous allons continuer ce combat-là, étant donné qu'il n'y a aucune base légale qui permet à la France de continuer sa présence militaire au Niger. Et nous avons fini par constater que notre combat est motivé et se justifie à travers aussi les mauvaises pratiques auxquelles l'armée française s'adonne, parce que nous, au Niger, il faut le dire, nous sommes déjà un peuple victime de la criminalité auxquelles l'armée française s'adonne. Et donc, à nos yeux, l'armée française est une armée criminelle qui a déjà assassiné nos frères. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en novembre 2021, la force Barkhane, dans ses déplacements abusifs et illégaux, a ouvert le feu sur les populations civiles nigériennes au niveau de la ville de Tera, occasionnant la mort de 3 Nigériens et d'énormes dégâts. Un crime imprescriptible qui n'est toujours pas, aujourd'hui encore, la justice n'est pas faite à ce crime-là, et nous continuons à réclamer que justice soit faite. À cela vient s'ajouter beaucoup de mauvaises pratiques et des manœuvres auxquelles l'armée française s'adonne, ce qui nous amène à avoir la conviction ferme que l'armée française est une armée criminelle et avec laquelle nous ne sommes pas obligés et nous ne sommes pas prêts à cohabiter dans un contexte de l'indépendance de notre pays, dans un contexte de la lutte pour la souveraineté nationale.
Monsieur Nabalou, attendez-vous une réelle réduction de la présence militaire française sur le continent ?
Mon avis est que c'est juste pour changer de forme, parce que la France, dans sa façon de faire, on sait que et on sent qu'elle n'a pas du tout l'envie de quitter, de partir. Elle trouve des stratagèmes pour divertir et pour se faire oublier. Donc, la France essaye de gagner du temps en faisant cette réorganisation, en voulant dissuader ou en tout cas en voulant montrer que cette présence-là va diminuer. Mais pour nous, c'est une farce et c'est aussi pour essayer de calmer un peu la fureur de la jeunesse qui a clairement indiqué sa volonté de voir la fin de la France-Afrique.
C'était Abdoulaye Nabaloum et Ibrahim Namayawa, panafricanistes burkinabés et nigériens pour Spoutnik Afrique. À notre micro, ils ont analysé la prochaine réduction de la présence militaire française dans 3 pays africains et se sont interrogés sur ce que cache réellement cette stratégie. Mesdames, messieurs, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Notre émission Zone de Contact se poursuit et je vous salue si vous venez tout juste de brancher votre poste de radio sur 99.5 FM depuis Bamako. Les militaires français n'ont pas non plus laissé les meilleurs souvenirs au Cameroun. La guerre du Cameroun, qui a eu lieu de 1955 à 1971, a coûté des dizaines, voire des centaines de milliers de vies, y compris celles de civils. Le pays a proclamé son indépendance le 1er janvier 1960, devenant la première des 18 colonies africaines à accéder à l'indépendance cette année-là. Il appartient désormais aux Camerounais de choisir avec qui ils souhaitent développer des relations. Audrey Chicot est une entrepreneuse et une femme d'affaires active qui a fait son choix en faveur de la Russie. Madame Chicot est fondatrice de MSMI, une entreprise qui est considérée au Cameroun comme la première usine métallurgique du pays. En plus de sa société, elle a investi dans le football. Ex-présidente du Dynamo de Douala, elle a fondé sa propre équipe, le Botafogo de la Grande Sanaga Maritime. En Russie, elle œuvre activement pour le renforcement des relations entre Moscou et Yaoundé. Ses efforts en ce sens sont reconnus par le gouvernement russe. Le ministère des Technologies, de l'Information et des Médias lui a remis lors d'un récent forum à Moscou une lettre spéciale de félicitations. Au micro de mon collègue Kamal Louadj, elle a exposé ses projets d'affaires avec la Russie dans un contexte actuel de sanctions anti-russes et partagé ses attentes à l'occasion du prochain sommet Russie-Afrique. Dans une deuxième partie de notre entretien, Audrey Chicot sera accompagnée de Daniel Macon Berthelot, gardien de but et capitaine du Botafogo de la Grande Sanaga Maritime, qui suit actuellement une formation en Russie. Et écoutons-la.
Audrey Yetna Chicot, vous avez participé avec votre entreprise au Forum des technologies de l'information à Moscou. Et à cette occasion, vous avez reçu une lettre spéciale de félicitations de la ministre russe des technologies, de l'information et des médias. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Et quelles sont les perspectives de coopération de MSMI, c'est-à-dire votre entreprise, de mécanique de précision avec les entreprises russes dans ce domaine?
Alors, déjà, j'en profite pour remercier Madame la Ministre, parce que j'ai été très surprise par sa lettre de félicitations qui était vraiment très chaude. Parce que je pense que c'est mon speech lors de ce forum où j'étais speaker, où j'ai quand même essayé de leur donner quelques pistes. Et puis, j'ai fait pas mal de rencontres lors de ce forum. D'où une deuxième fois ces remerciements, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des grandes entreprises, des grands groupes comme Skolkovo, comme FinTech, comme le Roshan Export, qui, avec lesquels actuellement je suis en pourparlers, mais on a eu un avancement, c'est-à-dire il n'est plus question seulement de MSMI au Cameroun, il est question aujourd'hui que j'ouvre carrément un cabinet ici à Moscou de consulting, et parce que ouvrir un atelier de fabrication pour moi à Moscou, ça ne me sert pas à grand-chose, parce que je préfère qu'on envoie plutôt les machines au Cameroun.
Ça, on y reviendra, ce sont dans les autres questions, mais j'aimerais d'abord que vous nous disiez si vous avez des idées de coopération ou des idées de développement de projets dans le domaine des technologies de l'information.
Oui, dans le domaine des technologies de l'information, nous avons déjà la Web TV, qui me tient beaucoup à cœur, parce que il est important qu'on arrive à donner la vérité, à dire la vérité, la vérité sur le plan des échanges industriaux, économiques, entre la Russie et l'Afrique, entre la Russie et le Cameroun, ce que la Russie fait exactement avec l'Afrique, et comment est-ce qu'on peut évoluer. Ensuite, il y a l'aspect financier, donc au niveau des banques, comment contourner cette situation monétaire.
Absolument.
On est en train de travailler aussi là-dessus, dans la mesure où les choses ne sont pas aussi catastrophiques qu'on peut le penser. Quand dans un système comme le nôtre, il n'y a que 8 banques qui sont concernées, et on sait qu'on en a beaucoup au Cameroun, entre les micros et les micros.
C'est-à-dire les 8 banques qui sont concernées par quoi ? Par les sanctions ?
Par les sanctions, oui, par les sanctions, donc par l'utilisation du SWIFT. Il n'y a que 8 banques et les autres ne sont pas concernées. Même si celles-là ne peuvent faire que des petites et des moyennes transactions, maintenant il faut trouver le moyen de contournement, comment agir, interagir avec les microfinances, les moyennes, les banques moyennes qui peuvent utiliser les deux systèmes. Du coup, je pense qu'on va y arriver. Et le forum IT, pour moi, c'était ces perspectives-là. Ensuite, la perspective de Skolkovo, j'insiste sur Skolkovo, pourquoi ? Parce que Skolkovo a une perspective globaliste d'installation avec cet aspect-là en priorité.
D'accord.
Voilà, donc...
Je reviendrai justement à ça. Donc, dans le cadre d'une conférence d'une coopération avec le Russian Export, vous avez entamé des négociations avec Exim Bank of Russia. Une filiale justement de ce groupe. Alors, quelles sont les activités que vous projetez de lancer dans ce cadre et où en sont les négociations ?
Alors, les activités que nous projetons de lancer dans ce cadre ont déjà commencé, sont des activités déjà existantes. C'est-à-dire que j'ai déjà des partenaires en Russie avec lesquels je travaille depuis un certain temps, mais toujours cet aspect d'échange monétaire qui dérange. Avec Exim Bank, on règle le problème, c'est-à-dire que quand il suffit qu'un de mes fournisseurs, je lui donne un bon de commande, on le transfère à la banque, à Exim Bank of Moscow, et Exim Bank me permet d'avoir la marchandise et de la transférer au Cameroun, et à travers dans les autres mécanismes dont on a parlé, pour pouvoir récupérer cet argent, soit le réinvestir même sur place. Donc ça évite des mouvements de fonds, pratiquement. Donc moi ici, on paye ici. Moi, là-bas, ils me disent qu'il faut payer ceci, il faut payer cela, il faut payer cela, il faut payer cela. Ça évite donc ces mouvements de fonds. Et donc, j'ai déjà de l'existant. Et c'est un très grand pas on a déjà, ils ont déjà le dossier, ils ont récupéré déjà tout le dossier fiscal. Et là, on attend juste l'accord, parce que le MOU est déjà prêt. On attend l'accord. Et je pense que les premières actions vont arriver dans les deux semaines qui suivent.
D'accord. Bien. Et y a-t-il d'autres entreprises ou organismes russes avec lesquels vous êtes en discussion, en vue de créer des projets de coopération?
Oui, il y a la Skolkovo, justement, le groupe Skolkovo, mais il y a également l'entreprise Citronix, que j'ai rencontré au Forum IT.
Je me rappelle, ils sont
voilà,
venus.
Voilà, le grand patron, et ouais. Voilà. Et bon, je m'étais demandé à l'époque, mais qu'est-ce qu'ils me veulent, parce qu'ils sont très gros. Mais quand nous avons une première réunion, nous avons créé même un groupe de travail, ils ont des projets très importants pour l'Afrique centrale, et ils veulent MSMI. À ce moment-là, c'est MSMI. C'est pas ce que je vais faire avec Skolkovo.
Oui, c'est parce que eux, ils ont proposé en termes justement de solutions numériques, de numérisation,
voilà.
Des choses extrêmement importantes.
Et très importantes. Et je préfère. Il y en a dont on ne peut pas parler ouvertement, mais ils sont très pointus dans tout ce qui est technologie. De l'information, technologie, tout ce qui est IT globaliste, ils sont très pointus. Je suis allé voir un de leurs sites, hein, un seul, parce que ça c'est un seul, le plus petit d'ailleurs. Et on est en pourparler, on est en train de faire tous ces échanges-là. On est presque à la fin. C'est simplement que comme je suis un peu dur en matière de négociation, il faut pas faire les mêmes erreurs que par le passé. Mais les Russes sont des gens très avenants et ils proposent toujours des choses concrètes. D'accord. Moi, c'est ça que j'aime. C'est concret. C'est du concret.
D'accord. Bien. Alors, revenons maintenant à Skolkovo. Donc, j'ai fait exprès de reporter la question parce qu'il faut quand même nos auditeurs sachent de quoi il s'agit. Donc, vous avez participé dernièrement au forum des start-up villages à Skolkovo. Et j'informe nos auditeurs que Skolkovo, c'est l'équivalent russe de la Silicon Valley aux États-Unis. Mm-hmm. Donc, avec un projet de médias numériques et vous avez même prévu que vous deveniez justement le partenaire de Skolkovo pour l'Afrique centrale. Oui. Et à ce titre, un forum de Startup Village serait prévu en 2024 au Cameroun. Mmh. Alors, expliquez-nous toutes ces évolutions.
Alors, disons que suite à ce forum, tout est parti du forum IT ici, même dans vos locaux. Et c'est Pavel qui est un des panélistes qui, avec Skolkovo, qui travaille FinTech, qui travaille beaucoup avec Skolkovo. Il m'a mise donc en relation avec Skolkovo. Il leur a dit, j'ai rencontré quelqu'un de très intéressant et il y avait quelqu'un de Skolkovo dans la salle qui a dit oui, effectivement, mais moi, je ne savais pas comment l'approcher. Il lui a dit non, moi, je l'ai approché, on a échangé. Donc, on a de fil à aiguille, on a commencé et ils m'ont proposé tout de suite de Startup Village. Bien. Donc, quand je suis parti, j'ai dit, mais ça, c'est la Silicon Valley, effectivement. Mais pas que la Silicon Valley, attention. Skolkovo, c'est beaucoup de branches, en fait. C'est plusieurs branches. Et ils sont installés un peu partout à travers le monde où ils sont en train de faire la propagation des entreprises russes et l'élévation des entreprises dans les pays où ils vont s'installer.
Et pratiquement dans tous les projets innovants.
Innovants, tous les projets innovants, parce que nous avons projet, j'étais speaker, mais nous avons eu deux projets présentés. Un était sur le rimamide et la progression du rimamide. Le rimamide, il faut savoir que c'est un polymère qui utilise très peu d'acier, de matière, l'acier, c'est un peu comme le pétrole, donc c'est l'une des...
Le fer, vous voulez dire.
Voilà, le fer, tout ce qui est fer. Tout ce qui est ferreux, mais très peu concentré en matière ferreuse, mais plus concentré en matière plastique. Et c'est une innovation technologique que nous avons commencé à implémenter au Cameroun depuis 5 ans maintenant. Et il est prévu que cette innovation s'installe au Cameroun parce que nous avons le projet Mbalam, en sachant qu'il a été prévu que Mbalam ait une transformation locale de 5% de son fer. Imaginons donc, avec 5% de ce fer-là, si nous fabriquons, parce que, attention, c'est une matière qui est polyvalente, pratiquement, elle peut remplacer pratiquement tous les aciers.
Absolument.
Donc, si avec 5% de fer que nous pouvons extraire d'une balame et à transformer, nous pouvons arriver à faire 800% de matière. Vous imaginez un peu ce que ça donne. Mm-hmm. D'où c'est ça l'innovation que nous voulons apporter à ce projet vis-à-vis de l'Afrique. Mm-hmm. Et donc,
vous allez être le partenaire de Skolkovo
pour l'Afrique centrale.
Il y a même
en 2024, nous avons déjà commencé les discussions pour faire un forum, pas forcément Startup Village, mais on va certainement l'appeler Startup Village. Mais comme les entreprises camerounaises moyennes sont pratiquement toutes encore à un seuil de start-up, on va plus prendre dans ces entreprises-là, mais on va favoriser quand même la jeunesse en passant par le ministère des PME et de l'innovation technologique, parce que vous savez, on a essayé de faire une forme de Silicon Valley au Cameroun, mais l'approche de Skolkovo est très différente. C'est une approche qui tient compte de l'environnement, de l'évolution technologique du pays où ils vont, et ils embrayent donc progressivement, mais de manière aussi très efficace en fait, mais en adaptant.
C'est-à-dire en accompagnant le développement,
pas en venant imposer des solutions
qui ne marcheront jamais.
On apporte, on voit la solution globale, mais comment est-ce qu'on peut l'introduire pour qu'elle fasse le boom dans le pays où il est, et ça marche, Skolkovo, ça marche en Inde, ça marche au Brésil, ça marche en Chine, ça marche un peu partout. Et ils n'ont que l'Afrique. En Afrique, il y a le prochain en 2023, c'est au Rwanda, au mois de, je crois, octobre ou novembre, où je vais participer. Et ils m'ont proposé par la même occasion de devenir leur partenaire pour la CEMAC.
D'accord.
Et donc, être partenaire de Skolkovo, ça veut dire être donc dans le pipe des entreprises, parce que en fait, pour eux, je suis considéré comme quelqu'un qui apporte de l'innovation à travers mon entreprise. Parce que j'apporte des solutions nouvelles, je suis à la recherche permanente de tout ce qui est nouveau technologiquement, et ils sont prêts à m'accompagner aussi là-dessus, et à accompagner aussi tous les autres pays de la zone CEMAC.
D'accord, bien. Alors, une dernière question. Dans les quelques semaines à venir, donc il y a le sommet Russie-Afrique qui va se tenir à Saint-Pétersbourg. Et une question, où en sont vos préparations pour le sommet Russie-Afrique? Et y a-t-il des annonces importantes à prévoir dans ce sommet qui s'annonce prometteur et qu'on peut-être on pourrait avoir en exclusivité dès maintenant?
Alors, ben oui, si possible, disons que
dans le la mesure du possible.
Disons que il y aura un très très grand changement. Nous sommes en discussion avec le Rose Congress. Nous allons nous déplacer d'ailleurs vers la région décentralisée du Rose Congress pour pouvoir, parce que pour l'instant c'est pas encore les profils ne sont pas ouverts. Moi j'ai reçu mon invitation depuis longtemps, pas l'invitation mais l'annonce du secrétaire d'État, et ce que je vais vous dire de façon globaliste, c'est que nous aurons un main dans la main Russie-Cameroun que nous allons montrer au monde entier à travers un certain mécanisme que je ne vais pas expliquer tout de suite, mais il faut déjà savoir que le monde entier verra la Russie et le Cameroun main dans la main, et la progression donc de notre coopération qui se fait de façon silencieuse, mais de façon certaine.
D'accord. Ben, nous ne pouvons que vous souhaiter plein de succès, plein de progrès, et pleine de réussite dans vos démarches ici en Russie et en Cameroun et peut-être dans toute l'Afrique centrale.
Ben, j'espère pouvoir venir vous donner de temps en temps des informations. Chaque fois que j'aurai une information cruciale, je viendrai vous la donner en prime time, parce que la Web TV que nous sommes en train de vouloir de monter est à l'image de Spoutnik.
D'accord. Ben, merci beaucoup, Madame Audrey Chico Yetna, pour cette interview. Et c'est avec un énorme plaisir que nous vous recevons encore une fois.
Merci beaucoup. Merci.
Maintenant, je rends le micro à mon collègue Anthony Lefebvre. Mais nous ne disons pas au revoir à Audrey Chico, qui va quand même apparaître maintenant sous un autre titre, celui de président du club de football Botafogo de la grande Sanaga Maritime, dont le joueur Daniel Berthelot est également présent dans notre studio aujourd'hui. À toi, Anthony.
Chers auditeurs de Maliba FM, nous allons marquer une courte pause. Spoutnik Afrique revient très vite avec Audrey Chico et Daniel Berthelot. A tout de suite sur Maliba FM. De retour sur Maliba FM à Bamako. Vous écoutez Spoutnik Afrique et l'émission Zone de Contact. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Audrey Chico, femme d'affaires camerounaise et présidente du club de football de la Botafogo de la Grande Sanaga Maritime, est toujours avec nous. Daniel Macon Berthelot, gardien de but et capitaine de la Botafogo de la Grande Sanaga Maritime, vient tout juste de nous rejoindre. Alors, Daniel Berthelot de la Botafogo Grande Sanaga Maritime, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes accompagné de la présidente de votre club, Audrey Chico, bonjour.
Bonjour.
Alors Daniel, vous êtes en Russie pour suivre une formation. Pourquoi est-il important pour un footballeur de penser à sa reconversion, même jeune? Et qu'est-ce que la Russie a pu vous apporter sur cet aspect?
Ma venue ici, premièrement, dernièrement, lors du forum Russie-Afrique, ma présidente a pensé que j'étais mieux placé pour pouvoir venir déjà voir comment ça se passe de ce côté. Et avec le Haïti, dans quelle mesure on pouvait déjà envisager s'autogérer au niveau de nos contrats, de notre vie, de notre salaire et tout. Donc, il y a ce gros problème aussi en Afrique, parce que quand elle est arrivée, elle a constaté que le monde du football camerounais, il y avait quelques manquements. Donc, elle veut vraiment remédier à cela. Parce que après, au Cameroun, déjà, dès que tu joues, même si tu as une blessure grave qui te met hors des stades, après, c'est difficile pour nous. On se retrouve à faire des petits boulots et pour pouvoir s'en sortir et tout, bon, sans avoir pensé au préalable au plan B. Donc, elle m'a fait comprendre que à travers le football, il y a plusieurs aspects sur lesquels on peut vraiment s'investir en dehors du stade, en fait. Donc, c'est pour ça que je suis venu et c'est pour ça que je suis encore là.
Et sans indiscrétion, c'est dans quel domaine que vous avez fait votre formation?
Bon, là, je suis venu pour une formation en marketing avec Intersan Plus, dont je suis géré en Afrique centrale. Donc, pour le moment, ça se passe bien.
Très bien. Je vais passer à une question suivante. Parallèlement, vous continuez aussi de vous entraîner. Et donc, quelle différence vous avez constatée dans le niveau de préparation entre la Russie et le Cameroun?
Déjà, le niveau se fait déjà sur les infrastructures, le matériel. Parce que nous manquons beaucoup sur ce côté. Et puis, il y a aussi la formation. Formation des préparateurs. La qualité, au fait. Et depuis que je travaille en MMA, sous un entraînement spécifique avec un coach personnel en salle. Et depuis, je me sens vraiment très bien. C'est comme si je n'avais jamais fait de muscu par ailleurs. Mais pourtant, je suis bien physiquement. Donc, je vois qu'il y a un léger décalage à ce niveau-là. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle elle pense aussi à faire venir nos entraîneurs pour des formations ici, comme vous l'avez constaté, et les journalistes et tout, sportifs, pour pouvoir se former et relever le niveau déjà du championnat camerounais.
Comme vous êtes gardien, la Russie, vous le savez certainement, qu'elle est connue pour avoir eu de grands gardiens de but. On peut citer par exemple Lev Yashin, qui a été le premier gardien et même le seul à avoir décroché un ballon d'or. On a également Rinat Dassaïev à la fin des années 80, ainsi que actuellement Igor Akinfeyev. Et quel est le secret, selon vous, qui se cache derrière cette lignée de grands portiers?
Je pense que, à mon humble avis, c'est beaucoup plus dans le travail et un état d'esprit, une hygiène personnelle, une hygiène de vie personnelle, au fait. Donc, et ça dépend aussi des objectifs de tout un chacun et de la passion. Parce qu'il faut déjà être passionné pour pouvoir le faire. Et je n'ai pas connu Yashin, mais j'ai vu quelques de ses actions, quelques de ses trucs. Mais c'est un gardien que j'ai beaucoup apprécié. Quant à King...
Igor Akinfeyev, le dernier?
Oui, oui. Je pense que c'est lui le capitaine.
Oui, c'est le capitaine du CSKA Moscou, CSKA Moscou. Inamovible dans son équipe, tout
je
à fait.
Je l'ai vu jouer dernièrement.
Lors du dernier match de championnat contre
oui,
Rostov.
Ils ont gagné 4 buts à 1. Et j'ai été vraiment très impressionné par son calme et son tempérament, son tempo dans le jeu. Ça m'a, soufflé à ma présidente que voilà, j'aimerais aussi lui demander de me donner quelques minutes et pouvoir aussi faire quelque chose. Parce que j'étais vraiment très ému au fait de voir le championnat russe pour ma première fois déjà. Je pense que dans les jours à venir, peut-être, je pourrais aussi essayer de faire voir mes performances.
Est-ce que vous pouvez dire pour nos auditeurs quelles sont les différences dans le jeu, comme vous avez vu un match en Russie, un match de première Liga, donc je rappelle la première division russe, et en plus un match de haut tableau entre le CSKA et Rostov. Quelle est la différence dans le jeu entre les footballeurs russes et camerounais?
Déjà, au Cameroun, nous avons beaucoup de talents, beaucoup de jeunes talents. Mais tout réside au niveau... là, la difficulté que nous rencontrons, au fait, c'est dans l'encadrement sportif. C'est ce que Mme Audrey Chico, qui est ma présidente, essaie de faire depuis, avec nous, avec les Botafogo, le suivi. Ça, moi, je trouve que c'est là où réside tout le problème. Parce que tu peux bien avoir le talent, mais si tu n'as pas un bon suivi, voilà, tu ne peux rien faire de ce côté. C'est l'une de ces batailles, au fait. En général, dans le football camerounais.
Mais concernant,
le talent, le jeu, bon, il n'y a pas trop de différence. Bon, mais c'est juste tactiquement, qu'on devra beaucoup travailler. Oui, parce que j'ai vu, ils étaient tellement assis tactiquement. Ça n'allait pas dans tous les sens, ça ne faisait pas n'importe comment.
Et on dit voilà. Aussi que le championnat russe, il est très connu pour son engagement physique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contacts avec les joueurs. Est-ce que c'est vrai pour vous?
Oui, oui, j'ai vu le dernier match et puis voilà. C'est un peu comme on dit chez nous, le calcio, où on ne siffle pas n'importe comment. Bon, voilà, il faut que ce soit vraiment trop flagrant pour qu'on puisse siffler. Bon, j'apprécie aussi ce côté-là. J'apprécie. Et puis la niaque des joueurs, un peu à l'africaine. Voilà.
On va passer au forum Russie-Afrique sur les technologies de l'information auquel vous avez assisté au mois d'avril dernier. Qu'est-ce que la Russie peut concrètement apporter au football africain dans le domaine de la numérisation?
Oui, dans le domaine de la numérisation, il y a déjà ce problème de...
Si tu permets, je vais prendre le relais.
Parce bien sûr.
Je vais prendre le relais parce que là, c'est plus du domaine du top management. Voilà. Donc, j'ai voulu qu'il vienne, lui et le journaliste sportif, à ce sommet de Haïti parce que le Haïti est quelque chose aujourd'hui qui est en train de d'être implémentée dans tous les systèmes, principalement dans le système footballistique. Même au niveau de la FIFA, tout est haïtisé aujourd'hui. Aujourd'hui, un joueur, on en est arrivé au point où il y a des passeports de joueurs. Ça veut dire que quand vous commencez à jouer, dès votre première licence, vous avez un passeport et c'est lui que vous utilisez jusqu'à la fin de votre carrière. Il y a ça, il y a le fait que ils doivent apprendre à se gérer financièrement et ça passe à travers la digitalisation, que ce soit par le mobile money, que ce soit par les comptes bancaires. Aujourd'hui, on impose, quand je suis arrivé et que j'ai demandé que tous les salaires soient absolument passés par les banques, j'ai eu tous les blocages possibles. Mais aujourd'hui, la CAF a cogné du poing sur la table. Je pense que la saison prochaine, ça va être ça. Ensuite, au niveau même de l'intrusion de la fédération, de nos fédérations dans les clubs, c'est plus facile quand on peut travailler avec la digitalisation. On reste à distance. Moi, je gère tout depuis Moscou et ça se passe très bien. Donc, la digitalisation est impérative. De toutes les façons, on n'aura pas le choix. Aussi bien pour les joueurs, parce que, par exemple, ne serait-ce que pour son autodiscipline, vous allez sur Internet, vous trouvez des mouvements à faire chez vous, parce que bon, nous sommes des pays pauvres et très endettés, mais bon. Et donc, vous allez chez vous, vous trouvez et vous faites exactement les mouvements qu'il y a chez vous. Ça fait partie de la digitalisation. Il y a des cours en ligne que donne la FIFA. Donc, la digitalisation va apporter beaucoup de changements. Même sur le plan tactique. Voilà.
Même aussi sur le plan de l'organisation, par exemple, on a, moi en tant que Français, je sais qu'on a ce dispositif de feuilles de match électronique.
Oui.
Puisque auparavant, après le match, il fallait rendre les feuilles de match à la Ligue. Voilà. Je parle pour les ligues amateurs, bien sûr. Mm-hmm. Ça, aujourd'hui, cette problématique a réglé pas mal de problèmes, de ce point de vue.
Le temps qu'on arrive à ça au Cameroun, je pense qu'il y a encore un petit bout de chemin à faire.
Donc, Daniel, il y a également de plus en plus de joueurs africains qui évoluent dans le championnat russe. Et est-ce que c'est un championnat qui pourrait vous intéresser à l'avenir ?
Ouais, bien sûr.
Vous avez des petites préférences, étant donné qu'on est en Russie, si jamais des clubs vous écoutent
Non, après, c'est ma présidente qui...
En fait, c'est géré. Nous sommes entrés dans l'ère vraiment du football professionnel. Aujourd'hui, la FIFA demande que les joueurs aient en même temps les managers et les présidents. Quand vous arrivez et que vous n'avez pas un manager et que vous signez votre contrat, c'est le président du club qui devient systématiquement le manager. Ce qui est le cas avec tous les joueurs de la Dynamo, de la Botafogo, parce qu'il faut savoir que je suis parti de la Dynamo.
De Douala,
de
oui.
De Douala, pour créer finalement Botafogo et à ma grande, c'est eux qui m'ont poussé à créer Botafogo. Parce qu'il faut savoir que c'est assez difficile pour les joueurs de partir de l'élite tout et recommencer en régional 4. Et pour des professionnels comme eux, mais ils m'ont poussé à le faire et on l'a fait. Malgré le fait qu'on ne soit pas dans le championnat, ils ont des entraînements tous les jours, de lundi à vendredi, dont une journée le mercredi en salle. Quand ce n'est pas le médecin sportif, ce sont les coachs sur le plan tactique et tout. Donc on se modernise. On a tout, on a des kinés, on a des salles de kinésithérapie. Maintenant, quant aux préférences ici à Moscou, si c'est pas pour rien que je suis à Moscou, je suis en train d'essayer d'ouvrir un peu plus de boulevard pour les Russes, tous ceux qui adorent le football de façon générale, de comprendre que le football africain a aussi besoin d'être aidé par la Russie. Il y a beaucoup de petits clubs qui sont à la recherche. C'est même pas grand-chose, en fait, qui sont à la recherche. Simplement, de bons techniciens, de bons technocrates, de gens qui savent ce que c'est que le respect du footballeur. Et je pense que les salaires sont tellement bas que il y a plusieurs Russes lambda qui peuvent aller vers le Cameroun et intégrer ce qu'on appelle des SAOS et donc pouvoir améliorer la qualité de nos clubs.
Je voudrais revenir avec vous pour terminer sur l'actualité de votre club, le Botafogo de la Grande Sanaga Maritime, qui doit débuter le championnat en 4e division, mais vous avez toujours un problème de licence qui n'ont toujours pas été homologuées. Est-ce que vous pouvez donner plus de précisions pour vos auditeurs, pour
voilà. nos auditeurs ? Alors, pour aller très vite, disons que on est encore dans un système archaïque, un peu un système, vous savez, c'est le noyau dur que Samuel essaye de briser. Par tous les moyens, il essaye à gauche, à droite, et à chaque fois, il arrive toujours à être réencerclé. Mais alors, la problématique, c'est quoi ? C'est que la FIFA a déjà délivré les licences. Maintenant, comme la FIFA a recentralisé tout au niveau de Paris, et décentralisé juste la partie du papier qui sort, cela reste un problème parce qu'il y a un seul individu qui doit sortir toutes les licences. Du coup, il est omnipotent, omnipuissant et tout. Et il n'a même pas de compte à rendre, en fait, à la fin. Et on est là, on tergiverse. Je rappelle que le championnat, dans les départementaux, il y a 6 départements qui n'ont pas encore commencé le championnat. Et le championnat est déjà largement en avance. Ils nous ont privés de la Coupe du Cameroun à cause de cette histoire de licence. Alors que nous avons tout. Tout est clean, tout est propre. Bon, hier, je pense qu'on est arrivé à régler la situation définitivement. Parce que le problème est arrivé au niveau du président de la fédération lui-même, Samuel Eto'o, qui se bagarre. Moi, parfois, je me demande comment il y arrive à faire, parce que aujourd'hui, il est à Istanbul, le lendemain, on entend qu'il est en Algérie, après, il est au Ghana, après, il revient au Cameroun. Ce garçon, il se bagarre, il se bat pour apporter le meilleur aux footballeurs. Mais il faut dire que de l'autre côté, les footballeurs eux-mêmes sont une première problématique dans le système, les footballeurs et les staffs techniques. Parce que on ne peut pas dire que le joueur, on dit le salaire minimum, par exemple, de la D2, c'est 75 000 francs. Vous, on vous donne 25 000 francs, vous allez quand même signer que vous avez perçu 75 000 francs. C'est pour ça que j'avais insisté sur l'aspect bancaire. Aujourd'hui, ils sont fâchés, et je vais dire, la vraie problématique est là. Ils sont fâchés parce que j'ai apporté un plus. Déjà, avoir des sièges sociaux, avoir un projet ambitieux de construction de stade, payer les joueurs en 4e division à 75 000 francs par mois, plus 40 000 francs pour les entraînements. Normalement, la fédération, on dit c'est 1 000 francs par jour. Et ça, c'est l'élite. Donc, moi, j'apporte, je me dis... Si on recommence en 4e division à ce niveau, on va pouvoir arriver à ce que Samuel demande, c'est-à-dire 400 000, 500 000 francs en Elite One. C'est normal pour l'Afrique. Donc, la problématique est là. C'est que je pose... je suis, en fait, le projet de campagne de Samuel Eto'o, et cela pose beaucoup de problèmes aux gens. Et ceux qui ne veulent pas que le système change, parce qu'il faut continuer à exploiter les jeunes, la médecine sportive, ils ne veulent pas en entendre parler. Tout, en fait, le blocage. Et donc, si je ne joue pas le championnat, pour eux, c'est tout bon. Mais ils se trompent, parce que j'ai un agenda. Moi, avec la Russie, moi, je vais continuer mon agenda. Parce qu'il y va de l'intérêt de mes footballeurs, des jeunes qui m'ont suivi. Donc, il y a des métiers autour du football. Il n'y a pas que dans les stades que ça se passe. Il y a beaucoup de métiers autour du football. Et déjà, avec la détection d'âge, c'est devenu très dangereux. La majorité de footballeurs d'Elite 2 et d'Elite 1 ne vont plus jamais pouvoir jouer soit à l'international, soit dans les U20, U17 et tout. C'est fini la triche. Donc, c'est toutes ces choses-là. Mais je pense que Samuel a cogné du poing sur la table et ça va se régler dans les jours, dans les heures qui arrivent.
Très bien, merci beaucoup Audrey Chicot. Merci à vous également Daniel Berthelot.
Merci.
Je rappelle pour nos auditeurs, donc Audrey, que vous êtes présidente de la Botafogo de la Grande Sanaga Maritime au Cameroun et que Daniel Berthelot, vous êtes gardien de but de ce club et capitaine.
Une petite minute, j'espère que Valérie Nipomiachi écoute cette émission. S'il écoute cette émission, il faudrait qu'il sache que Madame Audrey Chicot est installée en Russie et elle est à la recherche de Monsieur Valérie Nipomiachi pour pouvoir bien évoluer en tant que commandant. Merci beaucoup.
Le message est passé. Merci beaucoup. Merci à vous deux.
Merci à vous.
C'était Audrey Chicot, femme d'affaires camerounaise, présidente de la Botafogo de la Grande Sanaga Maritime, et Daniel Bertolo, gardien de but de ce club camerounais actuellement en formation en Russie. Pour Spoutnik Afrique, ils sont revenus sur les perspectives offertes par la Russie, aussi bien dans le domaine des affaires que dans le domaine du football. Mesdames, messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons dès à présent l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous retrouverai très bientôt aux commandes d'une nouvelle émission, Fidèle au poste. Je vous invite à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.